voudrais d'abord vous souhaiter à toutes les dames qui sont présentes une bonne fête des mères. Et comme j'ai aimé entendre ce matin, celles qui sont mères de cœur aussi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 5, il disait qu'il gardait le souvenir de la foi sincère de sa mère, Loïs, et de sa grand-mère, Eunice. Que ces deux dames avaient eu un grand impact dans la vie spirituelle de Timothée. Et mes sœurs, je remercie le Seigneur pour vous, chacune d'entre vous, et l'impact que vous avez autour de vous, que ce soit de vos enfants ou que ce soit parmi les enfants de l'Église ou d'autres personnes dans votre entourage, que le Seigneur vous bénisse. Et le thème de la foi est un thème important qu'on va regarder ensemble ce matin. Je vous invite de tourner, s'il vous plaît, dans la lettre de Paul aux Romains, Romains au chapitre 4. Si tu n'as pas de Bible, on peut t'en donner une en arrière. Tu peux lever la main, puis un des placeurs va t'amener une Bible. Si tu en veux une, ne te gêne pas de demander une Bible. Ou tu peux suivre dans ton téléphone, si tu vas dans une application comme Bible Gateway, par exemple, tu pourrais trouver et suivre avec nous dans la Bible, si tu le désires. Dans Romains 4, l'argument de Paul, son argument, c'est de démontrer, de prouver, de renchérir sur le point qu'il a mentionné précédemment, c'est-à-dire que nous sommes sauvés par la foi seulement. C'est par la foi seulement qu'on peut être sauvé. Dit en d'autres termes, si on prend les termes du passage, qu'on va lire dans un instant, la justice de Dieu nous est imputée et placée sur notre compte lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ seulement. Et c'est ce qu'il veut démontrer ici aujourd'hui, dans le chapitre 4 qu'on va voir ensemble. Au moins à 15 reprises dans les versets 1 à 25, Paul va mentionner le mot « foi » ou le mot « croire » ou le mot, à l'inverse, « doute » ou « incrédulité ». Il y a vraiment deux possibilités par rapport à la Bible. Soit qu'on y croit ou soit qu'on doute ou on est incrédule, qu'on n'a pas de foi, qu'on ne croit pas au message de la Bible. Puis, dans le chapitre 4, il y a aussi au moins 9 mentions du terme « imputé », qui veut dire « placé sur le compte de ». C'est un terme légal, c'est un terme financier qui a pour but de parler de régler ses affaires. Et comment on peut régler ses affaires avec Dieu? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans le passage aujourd'hui. Si tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, de remercier Dieu pour le salut qui s'obtient par la foi. Et si tu n'es pas un croyant aujourd'hui, je te dis tout de suite mes intentions, avec un passage comme celui-ci, ce serait que tu places toute ta confiance en Jésus-Christ, comme on a entendu ce matin dans les témoignages de Stéphanie, de Luc et de Maryse. Nous sommes sauvés par la foi seulement. C'est l'argument du texte dans Romains chapitre 4. D'abord, dans les versets 1 à 8, si on veut juste voir la structure du passage, les versets 1 à 8 nous parlent du salut par la foi et que le salut par la foi, ce n'est pas par nos bonnes œuvres, ce n'est pas par nos B.A., nos bonnes actions qu'on peut être sauvé. Deuxièmement, dans les versets 9 à 12, ça nous dit que la bonne nouvelle de l'Évangile, le salut qu'on peut obtenir par la foi seulement, ça ne s'obtient pas par les rites religieux ou par les symboles religieux, comme on vient tout juste de faire. Fait que ça va être intéressant avec ce qu'on a vu ce matin. Ce n'est pas les rites religieux qui sauvent, les symboles religieux, les signes religieux qui sauvent. Troisièmement, dans les versets 13 à 17, l'argument de Paul ici, c'est que la foi elle s'obtient, la justification s'obtient par la foi, elle ne provient pas de la loi, c'est-à-dire des lois de l'Ancien Testament. Et finalement, dans les versets 18 à 25, nous allons voir ensemble la promesse de la justification qui ne vient seulement que par la foi. C'est l'argument de Paul qu'on va voir ensemble ce matin. Regardons ensemble d'abord dans les versets 9 à 12, la bénédiction. On va sauter, on a déjà vu 1 à 8, donc on va aller au verset 9 à 12. Où Paul dit « Ce bonheur n'est pas seulement pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, ou est-il également pour les incirconcis, les non-Juifs? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais qui encore marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. » La bénédiction ici de la justification, elle est offerte à tous. Vous voyez ce bonheur partagé. On voit au verset 9 le mot « bonheur ». Et c'est quelque chose qu'on veut en Amérique du Nord, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on veut dans le monde entier, c'est d'être heureux, d'être d'avoir le bonheur. Et le bonheur nous vient, nous est expliqué dans les versets qui précèdent, dans les versets 6 à 8, où David a obtenu le bonheur lorsqu'il a été pardonné. Demander pardon, c'est une chose extrêmement difficile à faire aujourd'hui, mais combien ça fait du bien. C'est rare les gens qui demandent pardon. L'autre jour, lorsque je jouais au hockey, vous savez que j'aime beaucoup jouer au hockey, j'ai vraiment offensé un des gars dans l'autre équipe. Je suis un peu compétitif. Il y a des joueurs qui ont déjà joué avec moi en arrière, qui me connaissent bien, et souvent charnel dans mes réactions. J'ai dû aller le voir après pour lui demander pardon. Il ne savait pas quoi faire avec ça. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui lui a demandé pardon depuis bien longtemps. Il voulait un peu me dire de « laisse faire, c'est correct ». Je dis « non, je veux vraiment te demander pardon. » Mon attitude et mes paroles. Je demande pardon à mes enfants ou quand mes enfants me demandent pardon. On veut se réconcilier. Ils me pardonnent et je veux leur pardonner. Je ne veux pas qu'il reste quelque chose entre nous. Il y a tellement un bonheur à demander pardon. On doit tous apprendre à demander pardon lorsqu'on a offensé quelqu'un. À combien plus forte raison, l'argument de Paul ici, combien plus forte raison il y a une joie d'être pardonné. La joie d'obtenir le pardon avec Dieu. La joie du pardon, on la voit au verset 7 et 8. La joie du pardon de celui qui est pardonné, de celui qui ses iniquités et de ses péchés qui sont couverts. On a entendu ça dans les trois témoignages. Ils ont parlé de péché. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup aujourd'hui. Mais on reconnaît, nous, qu'on est tous pécheurs. Et on a besoin d'être pardonné. Et lorsqu'on obtient le pardon de Dieu, quel bonheur, quelle joie pour nous. Si Abraham, lui, au verset 9, si Abraham a été justifié par la foi seulement, pourquoi d'abord Dieu lui demande, lui et ses descendants, de pratiquer la circoncision? Dans le fond, s'il est déjà justifié, s'il est déjà pardonné, pourquoi se faire circoncire dans l'Ancien Testament? C'était un rite que Dieu avait demandé au peuple juif. Paul anticipe cette objection. Paul veut régler la question, veut aider son auditoire à comprendre que Dieu, même s'il a choisi le peuple juif dans l'Ancien Testament, il les a sauvés, combien de fois il les a délivrés? Ils ont passé par la mer Rouge. Combien de fois Dieu les a bénis, il les a sortis de leur misère. Mais Dieu a toujours voulu que son peuple soit une lumière pour les nations et que toutes les nations connaissent Yahvé, le Dieu éternel. Abraham, lui a été justifié, l'argument du texte, avant même d'être circoncis. Il a été circoncis seulement à la fin du chapitre 17, après la naissance de son fils Ishmaël au chapitre 16, et après la promesse qui lui avait été faite, et la foi d'Abraham au chapitre 15. 15 vient avant 16, vient avant 17. La foi d'Abraham, c'est celle-là qui est précurseur à la circoncision au chapitre 17. Dans le fond, la circoncision, le texte nous dit, est le sceau et le signe visible de ce qui s'est déjà passé, de l'entente qui a déjà été faite. Par conséquent, est indépendante de la circoncision. La circoncision est seulement un signe, un sceau qui confirme la justification pour Abraham. Et ça n'a jamais été conçu pour être le moyen par lequel on obtient la justification. Le problème avec nous, les êtres humains, c'est qu'on est mal fait. On est mal fait. Nos cœurs, à cause du péché, on a tendance à mélanger les affaires. On pense que parce qu'on prie 5 fois par jour, que ça va plaire à Dieu, et à cause de ça, on va obtenir le salut. On pense parce qu'on va payer, on va aller faire un pèlerinage, ou on va payer des messes ou des indulgences, parce qu'on va suivre des sacrements, alors Dieu va nous accepter. Dieu va nous recevoir. Certains pensent que lorsqu'ils passent par les eaux du baptême, comme Marie a fait ce matin, eh bien là, ils sont corrects. J'ai été baptisé, je suis correct, je suis sauvé. Ou lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on le fait une fois par mois dans notre église. Lorsqu'ils prennent le repas du Seigneur, avec ça, on est correct. Je suis sauvé, je suis un vrai chrétien parce que je prends le repas du Seigneur. C'est tout à l'envers. Aucun rite religieux ne peut nous sauver, zéro. Aucun signe religieux ne peut nous sauver, zéro. Il n'y a rien que je peux faire qui va faire que j'obtiens le salut, seulement la foi en Jésus seulement peut nous sauver. Abraham ici est donc le père de tous les croyants, des juifs et des non-juifs. La circoncision ne garantit rien. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle démontre ce qui s'est déjà passé dans le cœur et dans la vie d'Abraham. De la même façon comme on a entendu Maryse témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie, elle était déjà sauvée, même si elle n'était jamais baptisée. C'est pas grave. Parce que sa foi était en Jésus, et c'est la foi en Jésus qui sauve, pas les actes religieux qui sauvent. On a tout mélangé les choses, malheureusement. Le salut, ici, est pour tous, c'est l'argument. C'est pour toi, aujourd'hui, le salut. Tu n'as pas besoin d'être d'une certaine nationalité ou d'un certain âge. Luc avait 6 ans. Stéphanie, début d'adolescence, peut-être. Maryse, un peu plus vieille. Pas une question d'âge. Pas une question de race. C'est pas important, ça. Dieu, pour lui, ceux qui croient en son Fils Jésus, que Jésus est mort pour eux à la croix, auront la vie éternelle. Peu importe ta race, peu importe ton arrière-plan. Et c'est certainement pas les signes ou les rites religieux qui sauvent. C'est l'argument de Paul dans les versets 9 à 12. Deuxièmement, dans les versets 13 à 17, l'argument de Paul ici, c'est que nous ne sommes pas sauvés par la loi. C'est pas le fait de suivre la loi qui nous sauve. Lisons verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi, verset 16, les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru. » Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance, Abraham crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Ici, Abraham, il reçoit l'héritage des nations. Dieu lui avait dit dans Genèse 15 au verset 5, il lui avait dit de regarder les étoiles dans le ciel. Et il lui avait demandé à Abraham, « Peux-tu les compter? Peux-tu compter toutes les étoiles dans le ciel? » Prends l'occasion de faire ça cette semaine, dans un soir où il n'y aura pas de pluie. C'est rare de ce temps-là, mais un soir qu'il n'y a pas de pluie, prends le temps de regarder les étoiles dans le ciel. Dieu avait dit à Abraham, « Ta postérité sera comme les étoiles dans le ciel que tu ne peux pas compter. » Genèse 17, verset 5. Dieu avait dit à Abraham, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Dieu avait promis à Abraham de lui donner cette postérité, cette lumière pour les nations. L'héritage ici provient plutôt de la foi, puisque la loi, pour sa part, produit la colère et le jugement. C'est ce que l'Écriture nous dit. La loi de l'Ancien Testament, elle est là, elle nous montre que nous sommes pécheurs. Si on n'avait pas de loi, on ne saurait pas qu'on est pécheur. Mais la loi nous montre qu'on n'est pas capable de suivre les 600 et quelques commandements qui sont écrits dans l'Ancien Testament. Bon, les 600 commandements sont résumés par les 10, et les 10 commandements sont résumés par les deux. Quels sont les deux grands commandements de la Bible? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deux commandements pour le prix d'un. Parce qu'on avait posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Aimer son prochain, si tu n'aimes pas Dieu, il manque la puissance pour aimer son prochain. Parce qu'aimer les autres réellement, aimer comme Dieu aime, c'est surnaturel. On n'est pas capable de faire ça par nous-mêmes. Et la loi, elle démontre cela. Quand je considère ma vie, je regarde ma vie, je regarde mes paroles, mes actions, mes pensées, je ne pense pas toujours à Dieu. Je ne suis pas toujours en train d'aimer Dieu. Il y a des choses que je pense, que je dis, que je fais, qui sont loin de démontrer mon amour pour Dieu. Ceux qui vivent avec moi dans ma maison, ma famille, les frères et les sœurs de l'Église me connaissent aussi assez bien. Pas toujours rempli d'amour pour mon prochain, même si je voudrais. Même si ce serait le désir de mon cœur, quelqu'un pourrait regarder et dire « coupable, t'es coupable de ne pas aimer ton prochain ». C'est vrai. C'est vrai. Aimer les autres, aimer comme lui a aimé, en se donnant, en se sacrifiant, en s'humiliant, moi, j'aime pas comme ça. La loi, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle montre que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Mais la loi nous montre aussi ce que Dieu veut de nous. Moi, ce que j'aime la parole de Dieu, c'est que c'est clair. Ce que Dieu s'attend de toi et de moi, c'est clair. Dieu veut que tu aimes ton prochain, Oui. Il y a des commandements, des impératifs dans la Bible qui nous disent qu'il faut aimer notre prochain, même si c'est difficile, même s'il faut qu'on demande pardon. Dieu nous demande de l'aimer par-dessus toute autre chose et d'aimer notre prochain. Mais ici, la loi, regardez au verset 14, l'argument de Paul, c'est si c'était par la loi qu'on serait sauvé, eh bien, ça rendrait la foi inutile. On aurait juste à essayer plus de suivre les commandements de Dieu, puis on serait correct. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu voulait nous montrer que l'héritage que nous recevons, c'est une grâce. Regarde au verset 16. C'est une grâce. Une grâce, ça veut dire un cadeau, une faveur non méritée. Le salut que j'obtiens, ce n'est pas parce que je suis les commandements. Le salut que j'obtiens en Jésus, c'est un cadeau qu'il m'offre, que je ne mérite pas et que je ne pourrai jamais mériter. Jamais. On n'est pas les premiers humains à avoir vécu sur la terre. Es-tu quelqu'un qui a réussi à vivre sans commettre de péché, en suivant la loi de Dieu parfaitement? Il n'y en a qu'un seul, le Seigneur Jésus. Tous les autres êtres humains, les millions, les milliards d'hommes et de femmes qui ont passé avant vous, toi et moi, ils n'ont pas suivi la loi. Ce n'est pas par la loi qu'on est sauvé. L'héritage ne serait plus une grâce. On prend l'argument du verset 16 pour toutes les nations, mais serait plutôt un privilège restreint à un groupe sélect, les Juifs ici en l'occurrence, ce qui serait contraire à l'Écriture. L'argument de Paul, c'est que le salut est pour tous. N'importe qui croit en Jésus peut être sauvé. Abraham reçoit la promesse de Dieu, l'héritage, par la foi. Ce n'est pas par les rites religieux et ce n'est pas par la loi qu'il la reçoit. La loi vient encore plus tard. Ici, juste pour ceux qui aiment leur Bible, on est dans le livre de la Genèse. La loi arrive dans quel livre de la Bible? Dans l'Exode, n'est-ce pas? Exode chapitre 20, c'est là que déjà les 10 commandements sont donnés. C'est dans le Lévitique qu'on a tous les détails. C'est avant même la loi. Abraham avait obtenu la justification, le salut par la foi. Aujourd'hui, on entend des fameux adages, des paroles, hein? Et toi et le ciel. Vous avez jamais entendu ça? Et toi, le ciel des drames, j'entends ça des fois. Fais ton possible. Fais ton possible. Et de toute façon, le bon Dieu, il est plein d'amour. Le bon Dieu, il pardonne. Fait que fais ton possible. Ou j'ai fait une bonne vie. Je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. J'ai fait une bonne vie. Dieu va certainement m'accepter. Parce qu'au fond, je suis une bonne personne. Non. 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 Tu ne peux rien faire pour t'aider. Même si tu fais ton possible, ça ne sera jamais assez. Et non, on ne fait pas une si bonne vie que ça. On pense qu'on fait une bonne vie. Mais on se trompe soi-même. Le seul qui a fait une bonne vie, c'est Jésus. Et il t'offre aujourd'hui, il offre à quiconque croit en lui, la vie éternelle, le pardon des péchés. La recette, c'est foi et grâce. Verset 16. La recette, c'est pas foi et œuvre. Chapitre 4, versets 1 à 8. C'est pas foi et signe religieux. Ce n'est pas foi et loi. Ce n'est pas foi et promesse ou foi et semence. La recette de la vie éternelle. le verset que Stéphanie a lu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de vos bonnes actions. Par le moyen de votre obéissance à la loi, parce que vous avez suivi la loi, vous êtes correct. Ah, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen du baptême. Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il y a un seul moyen, que tu peux obtenir le cadeau, la faveur non méritée de Dieu. C'est par la foi seulement. Finalement, aujourd'hui, versets 19 à 25, je pense que je vais être correct. 19 à 25, la promesse de la justification s'obtient par la foi. Verset 19, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point, toujours on parle d'Abraham, que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était pas plus en état d'avoir des enfants. Abraham, il avait 100 ans quand il est devenu père d'Isaac. Sarah avait 90. Bonne réponse, Patrice. 90 ans. Verset 20. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant la gloire à Dieu. Et ayant une pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous autres. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, le Seigneur Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Comme Abraham eut la foi dans Dieu, son Créateur, qui peut rendre la vie aux morts, ainsi qu'aujourd'hui les croyants sont justifiés par la même sorte de foi. Abraham a 100 ans, Sarah a 90 ans, et Abraham croit toujours que Dieu peut lui donner ce fils Isaac. Ah, il s'est trompé, il a péché, Abraham. Il y a eu Ishmaël, hein? À l'âge de 86 ans, chapitre 16, il y a eu Ishmaël, c'est vrai. Mais malgré ça, il a quand même cru. Et Dieu lui a donné. Dieu lui a donné. Dieu a fait le miracle. Une femme de 90 ans qui a accouché, qui a eu un enfant. C'est miraculeux. La foi d'Abraham, chers amis, est un exemple pour les croyants de toutes les générations, pour nous aussi. Abraham, il a cru dans la puissance de Dieu qui était capable de prendre des vieux corps, des gens qui ne devaient pas pouvoir avoir des enfants à cet âge, pour que Dieu leur donne, effectivement. Et cela, le texte nous dit, lui fut imputé à justice. La foi d'Abraham de croire en Dieu, Dieu lui donne la justification à cause de sa foi, pas à cause de ses œuvres. Cette justification n'a pas été utile à Abraham seulement, mais à quiconque croit au même Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et en fait, Jésus, il fut sacrifié à la croix à cause de nos péchés. Il fut ressuscité à cause de notre justification comme preuve visible que Jésus a conquis la mort. Le rite du baptême qu'on vient de voir, ce signe visible, nous rappelle ces deux vérités. Parce qu'on a plongé Marie dans l'eau, on a rappelé que Jésus est mort et qu'il a vraiment été tué, mort, crucifié. Il a été dans le tombeau. Il a été 3 jours dans le tombeau. Mais comme on a entendu de l'autre côté à l'école du dimanche ce matin, lorsque les disciples sont venus, lorsque Marie Magdala est venue, lorsque Pierre et Jean, ils ont vu, ils ont cru, parce qu'ils ont vu que le tombeau était vide, vide, vide. Les témoins ont attesté de sa mort, mais aussi de sa résurrection. Jésus a dit à ses disciples, « Thomas, viens ici. » Viens ici, en bon québécois. Mets tes doigts ici. Mets tes doigts. Veux-tu voir? Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Chers amis, nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, mais avec la parole de Dieu au travers nos yeux spirituels. Dieu te place, cher ami, devant l'occasion aujourd'hui de placer toute ta confiance en Jésus-Christ. La justice de Dieu nous est imputée et placée sur notre compte lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus seulement. Non, ce n'est pas tes bonnes œuvres. Non, ce n'est pas les rites religieux. Non, ce n'est pas la loi. C'est seulement la foi qui nous sauve. Chrétiens, frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, quel passage, quel rappel du bonheur d'avoir nos péchés pardonnés. Remercie Dieu aujourd'hui. C'est la fête des mères. Remercie Dieu pour la mère qui t'a donné la vie. Remercie Seigneur pour sa bonté envers toi. Et toi qui connais Jésus, remercie Jésus. Il a pris tes péchés pour te justifier, pour que tu puisses dire avec assurance que ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la profondeur, rien, rien, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chrétien, parle de Jésus. Parle de ce message de grâce. Parle de ça. Invite les gens autour de toi à placer leur foi en Jésus-Christ. Toi qui ne connais pas Jésus, qui m'entends aujourd'hui, l'invitation est là pour toi. C'est pour tous. Tu peux aujourd'hui recevoir le cadeau de la vie éternelle. Ce serait ma joie et la joie de plusieurs personnes ici de prendre du temps avec toi et de t'expliquer, de répondre à tes questions afin que toi aussi, tu puisses dire que tu as l'assurance d'avoir la vie éternelle. Courbons-nous, s'il vous plaît, dans un mot de prière pendant que l'équipe de louanges s'avance. Seigneur Jésus, merci pour ta bonne parole. Il faut croire que c'est important, Seigneur, de parler de la justification par la foi seulement, pour que tu demandes à ton serviteur de prendre pratiquement 2 chapitres pour parler de ça, pour donner des exemples, pour nous aider à comprendre. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous conduit à toi, Seigneur. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils pour nous pardonner, pour nous justifier. Aujourd'hui, Seigneur, il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, qui se repent de ses péchés, qui demande pardon à toi pour ses péchés et qu'il place sa confiance en lui. Tu es notre espérance. Au nom de Jésus.